Alors, allô, monsieur Perrache, oui, alors, c'est monsieur Perrache, excusez-moi, on a du mal à avoir la ligne.
Rencontre avec François Perrache, comédien et auteur pour la radio, notamment les fictions 57 rue de Varennes, mais aussi Les Palmes, La Veste ou encore Jeanne revient pour France Culture, et puis la série en 6 épisodes De Guerre en Fils pour Arte Radio. François Perrache commence par nous dire comment il a rencontré la radio.
La radio est rentrée un peu par hasard dans ma vie, donc j'étais comédien. Et puis j'ai fait un stage, comme on fait régulièrement quand on est comédien, pour découvrir d'autres techniques. Et donc un peu par hasard, j'ai découvert la fiction radiophonique. Il n'y a que Radio France qu'on fait ça. Donc j'ai fait un premier stage d'un mois en tant que comédien. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré le formateur, qui était Cédric Ossier, réalisateur radio, et qui m'a fait retravailler pour lui en tant que comédien après, comme d'autres stagiaires. Et puis, comme le stage était long, on a eu le temps de parler de nos vies. Et Cédric, le réalisateur, savait que moi j'avais travaillé dans le milieu de la politique. Et donc, je quittais un jour un enregistrement qu'il me faisait faire du Chat du Rabbin de Johann Spahr, adapté en radio, où j'avais pas de texte, je faisais le perroquet, juste le son du perroquet que je pouvais faire. Voilà, je faisais juste ça. Et je quitte le studio et Cédric me dit au moment où je pars, il me dit « Mais toi qui as travaillé dans la politique, est-ce que tu vas proposer d'écrire une série pour France Culture ?» Et donc j'ai dit non, il m'a dit si. Et puis j'ai proposé un jour un pilote d'une série qui est devenue 57 rue de Varennes. Et depuis, c'est la moitié de mes revenus, c'est les deux tiers de mon temps. Et la radio a pris beaucoup de place.
57 rue de Varennes, de François Perrache. Sixième saison, L'ordre et le désordre.
Je fais le point avec la préfecture pendant qu'on te met à l'abri et tu vas enfin tout me raconter. J'ai bien dit tout, tout ce que tu sais sur cet assassinat et jusqu'à quelle profondeur tu es personnellement enfoncé dans cette merde. Parce que soit tu restes à bouffer du pop-corn en attendant qu'elle défonce le portail du ministère au Fenwick, soit on trouve la parade et peut-être, j'ai bien dit peut-être, qu'on finira pas tous au bout d'une pique.
Monsieur le ministre, vous nous suivez.
Il y a eu 6 saisons de cette fiction radiophonique. Est-ce que tu peux nous expliquer, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, 57 rue de Varennes, c'est quoi ?
Donc 57 rue de Varennes, c'est une série, on dit feuilleton des fois à la radio, ou série radiophonique de France Culture. Chaque saison, c'est 5 épisodes de 38 minutes. 28 minutes. La fiction radio, c'est un truc qui a plus de 100 ans et que beaucoup de gens ne connaissent pas et écoutent peu, qui a eu 16 heures de gloire autour des années 40-50. Ensuite, il y a eu une très longue phase où ça a été très ringard de faire de la fiction radio, ce qu'on appelait les dramatiques. Et puis, c'est revenu assez en force avec le développement de ce qu'on appelle le podcast, qui concrètement, c'est le fait qu'on puisse écouter ce qu'on veut quand on veut avec nos petits appareils, nos smartphones, etc. Et donc, la fiction est vraiment revenue en force. Et donc France Culture, ce qu'on sait peu, est le premier producteur d'Europe, je pense, de fiction radio. C'est le premier employeur de comédiens de France, en nombre de cachets, comme on dit, en volume. Et donc ils commandent, ils adaptent des choses connues, des classiques, etc. Et ils commandent des textes à des auteurs vivants. Et donc là, c'est une série qu'ils m'ont commandée, donc politique. Et donc c'est la série qui s'appelle 57 rue de Varennes, qui est l'adresse de l'hôtel de Matignon. Et donc c'est la vie des premiers ministres dans l'hôtel de Matignon. Et donc l'idée, c'est aussi de changer le personnage principal toutes les saisons. Donc à chaque saison, on change de Premier ministre, comme dans la vie. Mais c'est la vie intime, politique, professionnelle d'un Premier ministre et de ses collaborateurs.
Si vous êtes prêt, Monsieur le Président.
Ah, c'est ridicule, Michel.
Discute pas, ce sont les ordres.
Vous voyez, Michel, comme il me parle, hein, le pouvoir lui monte déjà à la tête. Je viens de nommer Christian Matignon.
Félicitations, Monsieur le Premier ministre.
Merci.
Monsieur le Président, même à l'intérieur du palais, je voudrais que vous croisiez le minimum de personnes. On va prendre des petits couloirs.
Et combien de temps je vais rester là-dedans?
Je ne sais pas, monsieur. On va voir avec monsieur le chef d'état-major. Si vous voulez bien me suivre.
Regardons chaud jusqu'à ce que ça se calme.
C'est une connerie de m'avoir ramené ici. C'est un piège, l'Élysée. Ça a toujours été un piège. Il faut me sortir d'ici tout de suite et discrétos, pas m'envoyer à la cave.
On travaille différents scénarios, monsieur le Président. Mais c'est... C'est compliqué dehors.
Oui, l'intérêt, c'est qu'on rentre un peu dans les arcanes du pouvoir. Hein. On rencontre les secrétaires, on rencontre un petit peu tout le personnel. Mais aussi, il y a un petit côté jouissif où il leur arrive beaucoup de choses. Tu les maltraites un petit peu, ce personnel politique.
Bah oui, il faut jouer avec nos héros. Il se trouve que là, c'est des personnels politiques. Mais oui, il faut qu'il leur arrive des trucs un peu incongrus. Donc, et souvent, on les met dans des situations improbables. Et puis, l'idée de cette série aussi, vraiment, c'est à la fois de faire des clins d'œil à l'actualité, mais de jamais citer les gens explicitement. Donc, on reconnaît aucun homme ou femme politique précisément, mais typiquement, le personnage principal, c'est toujours un petit mélange de... bah, je sais pas, on va avoir un petit peu de Sarkozy et un petit peu de Ségolène Royal et un petit peu de Charles de Gaulle au sein du même personnage. Donc, il y a des clins d'œil. Et oui, on les met dans des situations parfois un peu cocasses, mais comme dans la vie, quoi.
Alors toi, tu as fréquenté finalement ce, ce milieu. C'était, c'était un peu à ça que tu devais consacrer ta vie. Hein. Je ne sais pas, quand même des études sérieuses qui mènent à ce genre de travail sérieux. Et puis il y a eu le théâtre, c'est ça que, comment tu as basculé de la politique au, au théâtre?
Bah, on n'a qu'une vie, donc il faut en avoir plusieurs. Effectivement, moi j'étais un fils de Bourges, je suis toujours un fils de Bourges, mais donc j'ai fait de bonnes études, j'ai fait une école d'ingénieur, tout s'est bien passé. Et puis je suis rentré un peu par hasard dans les services du Premier ministre, qui était passionnant, j'ai fait ça pendant 4 ans. J'étais un tout petit schtroumpf, moi, là-dedans. Hein. J'étais dans un des services, d'un des services, d'un des services, mais je voyais tout, quoi, comme tout le monde. Donc c'était très intéressant. Puis ensuite, je suis parti dans le privé, puis j'ai bossé 18 mois à l'Élysée. J'adorais mon métier, et puis par ailleurs, j'avais la passion du théâtre. Que j'ai découvert très tardivement et aussi par hasard. Un copain qui m'a inscrit au conservatoire qui était à côté de là où était mon bureau, il m'a inscrit au cours d'art dramatique, puis je suis allé pour voir, et puis ça a changé ma vie. Et donc il y a une transition qui s'est faite doucement, et dans les trucs un peu rigolos, par exemple, je continuais à travailler pendant que j'étais en école de théâtre, je faisais des missions de consulting, et je travaillais notamment à temps partiel à l'Élysée, et donc il m'est arrivé d'avoir des cours de clown le matin et des réunions interministérielles l'après-midi. Donc voilà.
Lesquels sont les plus clownesques alors?
Mais on peut... Non, non, bah les clowns sont des clowns sérieux et les gens, sont, les gens de l'Élysée de Matignon sont des gens sérieux. Mais le télescopage était vraiment rigolo.
Puisqu'on parle de ta vie, il y a cette autre fiction radio, pas pour France Culture mais pour Arte Radio, dans laquelle tu te mets en scène et tu parles de ton histoire pour nous parler... de notre histoire aux communes, de la France et de l'Algérie, de guerre en fils. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'abord quel est le point de départ pour toi de l'écriture de ce texte?
Alors effectivement, c'est le même auteur, mais c'est des projets très différents dans leur conception. D'abord, on ne travaille jamais tout seul. Donc 57 rue de Varennes, c'est moi qui l'écris, mais il y a notamment Cédric Ossir, qui est le réalisateur et qui est vraiment partie prenante dès la conception. De guerre en fils, qui est un autre projet complètement différent. C'est avec Sabine Zovigian et Samuel Hirsch, c'est pour Arte Radio. Ça part aussi d'un contenu personnel, d'une histoire personnelle, mais raconter ma vie, ça intéresse personne, ça je le comprends tout à fait. Donc si j'ai parlé de 57 rue de Varennes, c'est parce que je connaissais cet univers, mais c'est pour l'ouvrir à d'autres. Et là, De guerre en fils, c'est des recherches personnelles sur mon grand-père, qui était à la fois une figure que je n'ai jamais connue puisqu'il est mort 15 ans avant ma naissance. Mon père ne m'en parlait jamais, c'était le père de mon père qui ne m'en parlait jamais. Et j'ai découvert par des recherches que ce grand-père était à la fois résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, important puisqu'il était responsable des faux papiers dans le Vercors, que j'ai une interview de l'abbé Pierre, par exemple, qui me dit que mon grand-père lui a sauvé la vie en faisant des faux papiers. Et puis le même grand-père était aussi, pendant la guerre d'Algérie, collaborateur du préfet de Paris, un certain Maurice Papon. Et donc il a fait de la répression anti-algérienne, enfin anti-FLN, les indépendantistes algériens. Et sans être tabou, c'est un sujet dont on ne parlait pas. Et j'arrivais pas à recoller les morceaux entre la figure du grand-père héroïque de la résistance et puis la figure un peu oppressante et oppressive du grand-père policier qui a littéralement participé au massacre d'Algériens pendant notamment l'événement du 17 octobre 61, qui n'est pas toujours connu, mais qui est un moment où des dizaines d'Algériens ont été jetés à la Seine pendant une manifestation par les policiers. Et je raconte tout ça parce que si c'est pour raconter ma vie perso, ça n'a aucun intérêt. Mais l'intérêt, c'est avec le prisme personnel, donc des choses qu'on connaît bien et intimes, mais pas impudiques, on essaye de donner des informations sur la guerre d'Algérie et remettre la petite histoire dans la grande histoire.
C'était il y a plus de 50 ans. Et la guerre d'Algérie ne disait pas encore son nom.
Alger capitale, au commencement des 60s. Les pieds noirs quittent le navire, les colons dératisent.
C'était un de ces moments de l'histoire où on persiste à minimiser, à se convaincre qu'il n'y a ni attaque, ni défense, ni résistance, ni combat, mais juste des événements.
1961, période estivale. C'est la guerre d'Algérie et son festival.
Et pourtant, les combats faisaient rage sur le territoire algérien.
Oui, c'est une fiction qui parle aussi des traces intimes que ce conflit laisse plusieurs générations après. Alors, je vais te poser la même question que tu poses à l'historienne dans le dernier épisode, sans spoiler l'écoute, hein, on invite les gens à écouter ça, mais tu lui demandes à l'historienne où on en est, et là, quelques années après, est-ce que toi tu suis un petit peu, parce que je sais qu'il y a une commission mixte d'historiens français et algériens qui commencent à travailler sur ces questions, où on en est là aujourd'hui de cette mémoire partagée autour de la guerre d'Algérie?
Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que je suis volontairement pas devenu un spécialiste de la question. C'est-à-dire que pour des raisons aussi personnelles, évidemment, il faut savoir arrêter de faire ces recherches, parce que moi je voulais passer à d'autres projets aussi. Donc je suis ça, mais j'avoue, un peu de loin en loin, tout de même je le suis un peu. Et ce qui est sûr, c'est que les choses avancent. Il y a notamment, mais c'est un combat permanent qui est loin d'être fini, avec notamment la nécessité d'ouvrir les archives aux chercheurs, mais aussi au grand public. Et les choses sont en train de se faire. Je crois qu'il y a un décret présidentiel qui est passé il n'y a pas si longtemps pour réouvrir les archives d'analyse là-dessus. Et puis, on n'a pas été, peut-être on a été parmi les premiers avec Sabine et Samuel à travailler là-dessus, mais il y a beaucoup de projets qui se font autour de la mémoire de la guerre d'Algérie, souvent avec une génération à cheval, c'est-à-dire c'est souvent les petits-enfants qui s'intéressent à ce qui s'est passé pour les grands-parents, peut-être que c'est le temps nécessaire de l'apaisement. Et donc il y a beaucoup de projets, et on le sait parce que beaucoup de gens viennent vers nous en disant « Vous qu'avez fait de guerre en fils, comment vous avez fait votre machin ?» Donc c'est problématique de solder un peu, enfin solder non, mais en tout cas se replonger dessus, y réfléchir. Il y a beaucoup de choses qui se font en France, en Algérie aussi. Donc la mémoire est en train de se fabriquer. Parfois dans la polémique aussi, il y a eu des historiens comme Benjamin Stora qui ont été au cœur de la polémique, etc. Mais les choses avancent doucement, voilà. Les plaies se pansent lentement.
Cette histoire n'est pas terminée. Depuis 2001, sur le pont Saint-Michel, à quelques pas de la préfecture de police, on peut lire une toute petite plaque.
À la mémoire des nombreux Algériens tués lors de la sanglante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961.
Voilà, c'est ce que dit le marbre. Mais 40 ans plus tôt, quelques jours après la manifestation du 17 octobre 1961, exactement au même endroit, on pouvait lire une autre inscription, peinte à la hâte sur la pierre grise du pont.
Ici, on noie les Algériens.
Juste en face de la préfecture.
On noie les Algériens.
Il a rapidement été effacé.
Les Algériens.
Il n'en reste qu'une photo.
Rien.
Prise pour l'éternité par Jean Texier.
Dernière question, tu en as un petit peu parlé sur ce nouvel élan hein, de la fiction radio. Il y a eu Arte Radio en France, il y a plein de choses qui se passent au niveau européen, international. Comment tu vois ça? Et puis, selon toi, quels sont les principaux enjeux en fait aussi de ce renouveau hein, de la fiction radio?
Il y a beaucoup de gens du point de vue des auditeurs qui déjà ne connaissent pas du tout la fiction radio. Donc il y a déjà les choses qui existent et sur lesquelles les gens peuvent se replonger. Mais pour l'avenir, il y a un renouveau autour notamment de cette histoire de podcast qui change notamment le fait que les formats ont complètement explosé. Avant, on écrivait pour certaines radios qui existent, qui diffusent à l'antenne, le broadcast, comme on dit, France Inter, France Culture, pour les plus grandes, et qui imposait des formats, notamment des durées. Il y avait une émission de fiction, du lundi au vendredi, de 30 minutes. Maintenant, les formats, on est libre, grâce, on va dire, au web, quoi, de faire la durée qu'on veut, le genre qu'on veut aussi. On peut mixer la fiction, le documentaire, etc. Donc, je dirais que la tendance, en tout cas, je dirais deux choses principales, mais on pourra en parler des heures, mais pour aller vite, je dirais, écouter de la fiction radio, dans les archives, dans les choses qui sont en train de se faire. Et pour l'avenir, pour les gens qui s'intéressent à ça, ce que je trouve intéressant, c'est que d'abord le son, quelque chose qui prend de plus en plus de place. Donc ça intéresse les gens de radio, mais aussi les gens qui sont en dehors de la radio, parce qu'on est tous un peu abreuvés d'images, de séries de télé, de cinéma, etc. Donc la radio, ça permet aussi d'apaiser les gens, d'avoir des rapports à la fiction plus tranquilles, et surtout nouvelles un petit peu, par les oreilles en fait. Et puis il y a cette histoire de forme qui sont un peu nouvelles, c'est-à-dire qu'avant on était dans des cases, le documentaire d'un côté, la fiction de l'autre, et maintenant les genres et les modes de fabrication s'hybrident, donc on a du docu-fiction, enfin, et puis plein de formes très intermédiaires. Donc c'est vraiment un espace qui est en train de se continuer, en fait, hein, parce que rien, on n'invente jamais rien. Ça a 100 ans et c'est voilà, la fiction radio est une jeune fille qui a 100 ans.
François Perrache, auteur de fiction pour France Culture et Arte Radio, un entretien ponctué d'extraits de Deux guerres en fils et 57 rue de Varennes. Allez écouter ça si vous ne connaissez pas.